We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Passerelle PME qui explore, qui vous montre toutes les voies qui s'ouvrent entre les grands groupes français, européens ou mondiaux et le monde des PME. Nous allons recevoir aujourd'hui deux personnes, ce qui nous fera un exercice physique supplémentaire puisque nous sommes dans une entreprise sérieuse de sécurité, de défense. Donc on ne plaisante pas aujourd'hui avec nos deux interlocuteurs. Et puisque c'est un des grands missiliers de la place, nous allons donc les torpiller de questions, ce qui nous permettra de démarrer avec d'excellents jeux de mots comme vous pouvez le constater. Et donc nous aurons aujourd'hui le plaisir d'avoir face à nous Monsieur Seddenberg avec qui nous allons commencer cette interview. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et puis dans quelques minutes, vous aurez le plaisir d'entendre également monsieur Olivier Lucas, ce que nous questionnerons un petit peu sur qu'est-ce qu'il se fait, qu'est-ce qu'il s'est fait, qu'est-ce qu'il va se faire, quels sont les bilans et les leçons qu'on peut tirer de cette coopération entre MBDA et les PME. Alors monsieur Seddenberg, c'est à vous que je laisse ce beau micro orange qui est devant vous. Alors MBDA en quelques mots, parce qu'un grand missilier n'est pas forcément un grand communicant, ce sont des entreprises discrètes. Donc une entreprise discrète qui fait quoi aujourd'hui, qui est un géant, un des leaders mondiaux, comme vous allez nous décrire en quelques mots?
Oui, tout à fait. MBDA, c'est la société européenne de défense, aujourd'hui la plus intégrée, notamment dans ses équipes françaises, britanniques, italiennes, société de missiles et systèmes de missiles créée par l'apport de nos trois actionnaires que sont EADS, BAE Systems et Finmeccanica, donc avec des implantations en France, avec les anciennes aérospatiales et Matra, on parle plus aujourd'hui que de MBDA, en Angleterre avec les anciennes BAE Dynamics, GEC Marconi, enfin leurs activités missilières. En Italie, l'ex Alenia Difesa, toujours activités missilières. Et puis en Allemagne, LFK, ex MBB, donc vous voyez un très grand groupe, ex DASA, etc. Donc tout ça représente, allez, en chiffres ronds, 10 000 personnes, en chiffres ronds environ 3 milliards, un peu moins de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et évidemment, acteur dans tout le domaine des missiles et systèmes de missiles, dans tous les créneaux, nous sommes un acteur global de cette activité missilière.
D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pousse, d'ailleurs vous le citiez tout à l'heure en préparant l'émission, des gens qui de temps en temps sont rivaux, parfois partenaires, à tout à coup monter un pôle commun et travailler ensemble, constituer un leader sur un secteur d'activité?
Donc MBDA est responsable de la filière missile, et notamment en France et aussi en Angleterre, bien sûr. À ce titre, il se sent responsable de maintenir un tissu industriel solide, un tissu industriel pérenne. Et ça, c'est un premier point qui est important à comprendre. Par ailleurs, parmi nos axes stratégiques et pour rester dans la compétition qui est très très sévère dans ce domaine, un de nos axes stratégiques est de maintenir en permanence une innovation et d'être toujours leader, apporter des solutions qui sont en avance sur nos compétiteurs.
D'accord.
Alors, l'innovation, comme le dit toujours notre PDG, est dans nos gènes. On a vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses là-dessus. Et par ailleurs, ou en complément, disons, MBDA reconnaît que dans certaines PME, et il y a ces qualités d'innovation, mais aussi de réactivité, aussi de créativité. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, alors il y a quelque temps avec Jean-Bernard Lévy, qui est le patron de Vivendi, qui nous disait la créativité, finalement, elle est plutôt en dehors de nos groupes que dedans. Est-ce que vous auriez ce parallèle dans votre secteur d'activité ou au contraire du fait du côté extrêmement pointu, secret et nécessairement innovant, au contraire la créativité est plutôt dans vos murs?
Alors nous avons beaucoup de créativité dans nos murs, beaucoup, et nous avons un tissu d'ingénieurs et de créateurs extrêmement important. Sur les 10 000 personnes que je citais tout à l'heure, en gros, 60% sont des ingénieurs.
D'accord.
Donc, on a une base extrêmement forte de compétences. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à regarder ce qui
Bien
se
sûr.
Passe ailleurs.
Bien sûr.
Et on reconnaît tout à fait volontiers que, en dehors de nos murs, on peut trouver... Et on trouve, il se trouve que c'est d'actualité, des idées tout à fait intéressantes qu'il convient effectivement de développer et d'intégrer dans nos recherches, puis dans nos produits plus tard.
Alors, vous avez été un des tout premiers, me disiez-vous, à intégrer Pacte PME International, qui à l'époque effectivement ne s'appelait pas Pacte PME, voilà. Donc est-ce que c'était une volonté du groupe, est-ce que c'était une volonté de Monsieur Seidenberg de se dire tiens, c'est par mon job, puisque je dirige la partie outils industriels, la partie supply chain, ça me plaît ce monde des PME, j'ai envie de m'y intéresser, c'est un moyen de créer cette passerelle entre les deux mondes et j'ai envie d'y aller, donc c'était autant une envie personnelle qu'une envie du groupe.
En 2004, c'était pas moi qui étais à ce
D'accord.
poste.
Donc c'était une envie du groupe.
C'était une envie du groupe, mais à laquelle j'adhère tout à fait volontiers. Au contraire, même que j'ai même beaucoup poussé. Dès 2004, dès la création de ce pacte PME, nous avons été parmi les premiers à y adhérer, justement parce que on considérait que ce que je viens de vous dire tout à l'heure, on doit pouvoir trouver en dehors de notre groupe, des bonnes idées, de l'innovation, et par conséquent, le pacte PME nous paraissait un bon tremplin, un bon outil pour développer cette innovation.
D'accord. Et donc aujourd'hui, MBDA, finalement, me disait View également, quand on en parlait tout à l'heure, a finalement un tissu naturel de PME avec lesquelles vous travaillez tous les jours. Donc finalement, il y avait plusieurs aspects. L'idée de se dire, ben demain, ces entreprises innovantes, serait bien qu'elles puissent accéder à des groupes comme les nôtres et donc du coup d'avoir une politique vis-à-vis des achats qui leur ouvre les portes de façon un petit peu plus aisée. Il y a un côté veille, du coup, qui me paraissait naturel sur de l'innovation qui pourrait vous intéresser dans le cadre de vos activités. C'était un petit peu ça l'objectif.
Alors justement, l'innovation, le problème que pose l'innovation et la recherche de partenaires dans cette innovation, c'est de les identifier. Mmh. Alors, ce problème est dans les deux sens. Pour le maître d'œuvre industriel, comment savoir sur un thème donné qui, dans France ou ailleurs ou en Europe, a de bonnes idées dans ce domaine et est soucieux de vouloir les développer.
Mmh.
Et pour ces entreprises, on s'aperçoit tous les jours qu'elles-mêmes se posent la question de savoir comment accéder à ces grands comptes.
Tout à fait.
Et donc, on a mis en place dans MBDA un certain nombre d'initiatives qui nous permettent de répondre à cette problématique. Le pacte PME en est une. On a aussi adhéré au pacte PME international quand
D'accord.
il s'est créé à l'initiative de M. Lachmann il y a 2 ans mm-hmm. à peu près. On est aussi partie prenante, membre et au conseil d'administration de pôles de compétitivité comme Astec, comme mm-hmm. Systématique. On a fait des accords avec des universités, avec l'université Toulouse, Munich, Madrid, l'université de Cranfield en Angleterre, et tout ça, ça nous donne accès au tissu industriel local.
Alors,
concernant le pacte PME, il y a un des outils, alors, le pacte PME, contribuons à développer les outils du pacte PME à travers un certain nombre de commissions, dont la commission innovation ouverte. Parmi ces outils, il y a ce qu'on appelle le sourcing,
oui.
qui consiste à, sur un thème donné, essayer d'identifier les entreprises susceptibles de travailler dans ce domaine.
Oui.
Et là, on donne au pacte PME le thème et puis les principales caractéristiques de ce qu'on recherche. Et dans la base de données du pacte PME, qui est de l'ordre de 4000 à 5000 entreprises, ils peuvent nous identifier les quelques dizaines qui sont susceptibles de répondre à notre besoin. À partir de cette liste, nous regardons plus en détail et nous filtrons et nous sélectionnons celles qui peuvent nous intéresser, qu'on invite à des forums chez nous dans lesquels les ingénieurs qui sont sur ce sujet vont écouter et présenter eux-mêmes leurs problèmes. Et ensuite, c'est comme ça que peuvent se lier un certain nombre de relations qui débouchent ou ne débouchent pas, enfin, oui, vers des entreprises. À titre d'exemple, dans les deux dernières années, il y en a, PAC PME nous a identifié en gros 400 entreprises, et il y en a plus d'une centaine qui ont été invitées à venir se présenter ici.
D'accord.
Et qui ont rencontré sur une dizaine ou une quinzaine, peut-être une vingtaine de thèmes, je ne sais plus, nos ingénieurs, et ça a débouché sur un certain nombre de contrats. Alors, peut-être Olivier Lucas va vous expliquer, puisque c'est lui qui est l'utilisateur de cette, oui, cette formule, qu'est-ce qu'il en sort.
Très bien, parfait. Ben, on va donc donner la parole à monsieur Olivier Lucas. Monsieur Lucas, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous prenez la suite de monsieur Senderberg. On vous livre tous les secrets dans Passerelle PME. Donc, on a distingué un petit peu la présentation de la société, de la politique, du rapport avec PAC PME. Et monsieur Lucas, aujourd'hui, vous jouerez le rôle de qu'est-ce que nous avons fait. Donc, on va venir un petit peu sur le bilan. Alors, est-ce que ça veut dire, juste pour faire la transition avec ce que disait votre prédécesseur, est-ce que ça veut dire qu'il y a une politique aussi pédagogique vis-à-vis des achats? Parce que finalement, on en parlait tout à l'heure des procès que font souvent le monde des PME aux grands groupes. Est-ce que justement, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une pédagogie particulière vis-à-vis des achats en leur disant « ouvrez les yeux et les oreilles sur ces petites entreprises qui peuvent demain nous apporter beaucoup de choses ».
Oui, je pense que c'est vrai, mais je pense que c'est pas seulement une pédagogie vis-à-vis des achats. Je pense, oui, que c'est une pédagogie vis-à-vis de tous les acteurs de l'entreprise.
D'accord.
Les achats, les ingénieurs dans le monde de la recherche, les services administratifs qui effectuent les paiements, parce que le délai de paiement, vous savez, c'est très important pour les PME. Donc c'est toute l'entreprise qu'il a fallu ouvrir sur un mode de travail, oui, un peu différent avec les PME. Il existait déjà, bien sûr, mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de le faire monter en puissance. Ouais. Et puis, surtout, le secteur d'activité dans lequel on a noué des liens plus serrés avec les PME a changé. Depuis fort longtemps, MBDA travaillait avec des sous-traitants PME, ouais, en production, ouais, par exemple, dans la région de production. Par contre, s'engager avec une PME dans les phases très amont d'études et de recherche, c'est un autre type de partenariat,
d'accord,
je pense, qui, effectivement, n'est pas strictement de la sous-traitance, je dirais, tâche
tout
par tâche, mais un véritable partenariat. Donc,
d'accord,
ça a changé de nature, et la pédagogie s'est exercée aussi vers les ingénieurs. Nathaniel disait tout à l'heure, on est ingénieur, donc on est créatif.
Ouais.
Bon, une version un peu optimiste, sans doute. il existe sans doute des ingénieurs plus ou moins créatifs, et je pense pas que la créativité s'arrête au domaine des ingénieurs. Ça peut toucher beaucoup d'autres secteurs.
Oui,
donc
est...
c'est cela qui est, je pense, qui est l'étincelle qu'on a, ouais, essayé de.
Puisque c'est intéressant, c'est que souvent dans la défense, de la défense sont nés des produits d'application civile. Alors l'armée israélienne et la recherche israélienne connaît particulièrement bien ce mécanisme-là, mais de temps à autre aussi, c'est le chemin inverse qu'on peut prendre et arriver sur des inventions civiles, j'allais dire, qui peuvent avoir une application sur la défense. Alors, vous êtes en charge de la recherche et développement appliqué, des études amont, et donc du coup, ça vous met en lien avec toutes ces entreprises. Alors, deux secteurs qu'on voulait aborder avec vous, puisqu'il nous reste quelques minutes là-dessus. Tout d'abord, vous me disiez, nos PME partenaires, elles sont européennes, donc elles sont pas uniquement françaises, donc c'est là aussi votre ADN et puis votre empreinte géographique. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes organisé pour dialoguer avec toutes ces PME dans les différents pays où vous êtes situés.
Oui, tout à fait. Et on a commencé par un axe assez fort, qui est un axe structurant pour MBDA et peut-être même à l'avenir pour la défense,
oui,
en Europe, qui est l'axe franco-britannique.
Oui.
Donc on a été chargé par les gouvernements français et britanniques de créer une sorte de pôle de compétitivité. Oui, j'emploie ce terme-là avec des guillemets parce que là, on a essayé de créer une structure assez légère pour pouvoir effectivement drainer les investissements vers les projets, vers la recherche.
D'accord.
Medea, une entreprise qui est très orientée projet de tout temps. Elle a été tout le temps et de toutes les composantes de Medea, c'est la même chose. Donc, on a essayé de créer une structure très orientée sur les projets où les financements vont directement à la recherche et aux applications futures. Donc c'est une organisation qui est franco-britannique et qui par contrat dès le départ, le contrat des deux ministères de la Défense a fixé comme objectif d'investir 25% du budget dans les PME et la recherche académique en général.
D'accord.
Donc c'est un objectif important. Après 3 ans de fonctionnement, aujourd'hui on est à 27%, c'est-à-dire on a déjà dépassé l'objectif. Mmh. Et je pense qu'on atteindra facilement 30%. Et 30%, bon, ça représente, c'est 30% du budget.
Oui.
Donc 1 euro dans une PME et 1 euro dans un grand groupe avec toutes ces charges de structure, c'est pas forcément exactement la même chose.
Oui.
Et je pense que ça représente une véritable opportunité. Et pour les PME et pour MBDA.
Donc ça veut dire que vous participez financièrement à des efforts de recherche, mais en finançant des chaires d'université, en finançant des chercheurs, en finançant... Enfin, quel canal prend cet argent qui est investi?
Alors le canal, c'est un montage qui est finalement assez simple. Le budget est pour moitié un financement étatique, donc moitié britannique, moitié français, et pour moitié de l'industrie. Donc on a un système qui fonctionne avec environ 15 millions d'euros par an sur des technologies innovantes, vraiment émergentes. Donc 15 millions d'euros par an, c'est beaucoup.
C'est clair.
Pour des technologies émergentes. Et donc les industriels financent à la moitié. Alors les PME participent souvent en apportant plus leur savoir-faire que vraiment du budget. Donc c'est le rôle des groupes. Alors MBDA est leader d'un groupe d'industriels. On y trouve aussi Thales, Selex, Microturbo, Nexter et Kinetic en Grande-Bretagne. J'allais oublier Roxel, n'oublions pas Roxel, qui pilote chacun un domaine. Donc dans ce domaine-là, il y a un cofinancement des activités. Donc c'est directement des contrats de recherche, de R&T, qui sont orientés, qui orientent les budgets vers des partenaires où il y a en général un grand groupe, des universitaires, des chercheurs, sous forme soit de thèse, soit directement un contrat de recherche sur 18 mois, 2 ans, et donc un ensemble de partenaires qui travaillent dans chaque domaine.
Alors, en conclusion de notre émission, et si ce n'est pas secret, est-ce qu'on peut parler d'un exemple concret sur quelque chose qui a débouché, qui soit visible et dont on puisse parler?
Toujours difficile de prendre un exemple, surtout que c'est vrai que on travaille dans les domaines amont et dans la défense, les cycles sont longs.
Bien sûr.
On part entre une idée innovante et puis l'application, j'irais, visible dans les services, dans les armées, il se passe souvent une dizaine d'années.
Oui.
C'est d'ailleurs pour ça aussi que les PME apportent leur dynamisme et des cycles plus courts qui sont extrêmement intéressants. Peut-être citer un exemple récent où on a travaillé avec une PME qui s'appelle Advanten sur les domaines des liaisons hertziennes qui peuvent connecter un système au sol, par exemple, et un missile ou n'importe quel engin volant.
D'accord.
Et donc, c'est sans doute quelque chose qui va se développer, qui a un bel avenir.
Entreprise de quelle origine?
Entreprise française.
Française. Oh, cocorico pour finir. Donc, c'est une très belle... Alors, ce qui veut dire pour les PME qui nous écoutent aujourd'hui, et ce sera la conclusion, que vu votre ouverture aux PME, si aujourd'hui on a des boîtes innovantes, des gens innovants et qui se disent finalement je peux contacter MBDA, excusez-moi, ça veut dire qu'aujourd'hui ils peuvent vous appeler, ils auront une réponse. Ou ils passent par le pacte PME ou ils voilà.
Pacte PME, je pense que c'est la bonne structure parce que quand des PME nous contactent, c'est aussi un investissement pour
bien
eux
sûr.
Donc il faut que l'investissement soit bien placé et qu'ils essaient de viser à coup sûr un bon contact.
Monsieur Seldenberg, Monsieur Lucas, merci de votre temps, merci de toutes ces informations et à très vite sur Passerelle PME pour une nouvelle émission. Je vous donnerai rendez-vous avec une nouvelle société dans quelques semaines. À bientôt.